Au Cameroun, beaucoup de gens m'appellent Super Nani. Je milite pour l'autonomisation financière des femmes par le secteur de travail domestique. J'accompagne les femmes à rechercher un emploi décent avec un salaire décent. Qu'elles aient également conscience qu'elles ont de la capacité pour faire valoir leurs droits sur le terrain.
Voir mes soeurs, mes petites soeurs subir des violences basées sur le genre me met mal à l'aise. Je suis celle-là qui porte haut les droits des femmes et des filles. Faire en sorte que les femmes ne restent plus dans l'ignorance. Je peux donner mon mot dans le foyer, je peux envoyer ma fille à l'école. Je peux être aussi libre, pouvoir sortir de la vulnérabilité pour devenir autonome. C'est ça qui me rend fière de ce que je suis en train de faire.
De voisins avec Emmanuel Bastide.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Reportage aujourd'hui à la rencontre de militantes au Cameroun. L'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas encore pour demain en Afrique où les abus, les violences basées sur le genre sont encore nombreux, les progrès trop lents. Au Cameroun notamment, les filles sont toujours condamnées à arrêter très tôt leurs études, à devenir des mères, des épouses, à se cantonner au foyer, à renoncer à tout rôle économique et donc à ne pas prendre leur place dans la société. Bonjour Raphaël Constant.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez donc suivi des associations qui défendent les droits des femmes pour construire une société plus juste.
Oui, et l'un des moyens de garantir l'indépendance des femmes passe, Emmanuel, par le fait d'avoir un travail rémunéré pour être autonome. Et c'est justement l'objectif de l'association pour le développement des assistantes de maison. Sa présidente, Claudine Lucie Mboudoumbala, 47 ans, défend les droits des femmes domestiques. Et déjà, au téléphone, cette Super Nani, comme on l'appelle, était souriante et généreuse. Je l'ai rencontrée à Yaoundé, au bureau de son association située dans le 4e arrondissement, où elle accueille chaque jour des femmes à la recherche d'un emploi. Là, elle propose une formation technique et des outils en cas de violation de leurs droits. Et ce matin-là, trois femmes, entre 35 et 50 ans, sont présentes. Claudine, une robe pagne bleue et jaune, un foulard orange noué autour de la tête, se tient devant un grand tableau noir.
Ce matin, on va aborder les points importants, la connaissance du travail domestique. Parce que lorsque quelqu'un dit « je veux être employé de maison », il faut d'abord connaître ce que c'est que le travail. Lorsque tu seras recruté dans une famille, tu penses que ton rôle sera de faire quoi dans cette famille?
Selon moi, dans cette famille, mon rôle sera d'assumer la tâche qui m'est résignée, se soumettre à son patron, quoi.
Donc quand le patron va te dire que pose ta main ici, je coupe, tu vas te soumettre. Vous pensez que le mot soumission a lieu d'exister dans cette relation de travail? Le respect, mais pas la soumission. C'est clair pour tout le monde? Je crois que si je ne me trompe pas, c'était en 1995 que j'avais commencé à travailler. Sortant d'une famille indigène, pauvre, il n'y avait pas de moyens, je ne connaissais pas beaucoup de choses. Et puis j'ai décidé comme ça d'arrêter mes études. J'avais 18 ans, j'ai commencé à travailler dans deux domiciles. Je n'avais pas encore utilisé une cuisinière, je ne savais pas comment on pouvait lever les filets de poisson. Je ne connaissais pas bien le sol carrelé, tout et tout. Mais j'avais besoin d'argent. Si bien que ma patronne était fâchée de me payer et en même temps de me donner cette formation. Ce n'était pas facile.
Et elle vous payait combien à cette époque-là?
À cette époque-là, elle me payait 30 000 francs.
30 000 francs CFA, ça fait à peu près 46 euros.
Oui, c'est ça que j'avais par mois au début de ma carrière. Et avec ça, j'arrivais à tenir ma maison parce que j'avais déjà deux enfants et j'arrivais à m'occuper d'elle et de moi-même parce que le coût de la vie n'était pas très élevé comme aujourd'hui.
Et comment ça se passait chez vos employeurs?
Lorsque je faisais quelque chose qui n'était pas bien, elle s'irritait et devenait un peu méchante. Elle pouvait me crier dessus, elle pouvait me balancer un plat de nourriture au sol en me disant « Pauvre fille, tu ne connais rien, voilà ce que tu mérites là-bas. » J'ai cela en souvenir qu'un jour, pour avoir pris ses propres congés à elle avec ses enfants, et avait demandé que je vienne rester à la véranda de la maison juste parce qu'elle ne voulait pas me laisser à moi aussi comme en congé avec ma famille. Donc durant les 2 semaines ou 3 semaines qu'elle était à Kribi, moi je venais chaque jour à l'heure d'arriver au travail, étant bien surveillée par le gardien. Puis elle m'avait laissé un seau de pistache à décortiquer parce qu'il fallait bien qu'à la fin du mois, je justifie mon salaire.
Donc ça faisait déjà quelques années que vous travaillez en tant qu'assistante de maison. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour vouloir créer une structure ?
Contribuer aux côtés du gouvernement pour que ça sorte de l'informel. Cette envie introduit la formation professionnelle dans le secteur du travail domestique. Donc ce sont toutes ces idées-là en tête qui m'ont poussé à créer l'association. Alors, avant de parler des droits, il est toujours important de connaître ses devoirs. Quand tu connais bien tes devoirs et tu les assumes, les droits vont te revenir directement. Une employée de maison doit être comment? Polie.
Gentille.
Gentille. Valérie, tu as quelque chose à dire?
Obéissante, travailleuse et respectueuse.
Ok. On a besoin des gens polis, comme vous avez dit. Des gens qui peuvent dire bonjour à l'arrivée. Des gens qui peuvent dire au revoir avant de partir. Être de bonne moralité. J'ai cassé un verre. Et là, vous ne serez pas accusé de voleuse. Une fois que vous connaissez tous vos devoirs, les devoirs-là deviennent vos droits.
Alors, pour bien comprendre, Claudine, en quoi les droits des femmes peuvent être bafoués, en fait, dans ce secteur professionnel ?
Elles n'ont pas conscience qu'elles ont des droits. Il y a le salaire indécent. Votre salaire n'est pas payé à temps. Les horaires de travail qui ne sont pas respectés. J'ai eu à affronter un patron qui a chassé la travailleuse domestique de sa maison. Elle est debout à 4 heures. Elle va faire le bain aux enfants, elle va les accompagner à l'école. Et quand elle est de retour, elle enchaîne directement avec les travaux de la maison. Elle fait le ménage, elle va faire la cuisine, la lessive, le repassage. Et puis, elle est la dernière à aller se coucher. Il y a des patrons qui ont différentes éducations, qui sont agressifs, qui vous giflent parce que vous avez mal répondu ou vous n'avez pas fait leur travail. Deux fois, le patron regarde comment vous êtes habillé. Elle vous dit que vous êtes en train de venir séduire son mari. Tout de suite, là, elle crée des situations qui vont vous marginaliser. On vous traite de rien, on ne vous accorde aucune importance.
Et des cas de violence sexuelle, est-ce que vous en connaissez?
J'ai entendu parler des filles qui disent « Le patron m'a proposé de m'arrondir le salaire si j'accepte avoir des rapports sexuels avec lui. » Et quand elle n'accepte pas, le patron qui a honte d'avoir sous son toit une employée qui a refusé de céder à ses avances commence à accuser injustement la travailleuse domestique auprès de son épouse. Et ça crée souvent la séparation.
Est-ce que ces cas-là, ils vont jusqu'en justice?
C'est pas encore allé jusqu'en justice parce que prouver la violence sexuelle n'est pas facile. Elle décide de rompre avec cette famille et d'aller trouver un autre emploi ailleurs. Il y a aussi les épouses de la maison qui décident de faire partir la travailleuse et parfois peuvent lui donner un peu d'argent en dehors du salaire, en attendant de trouver un nouvel emploi. Parce que déjà, elles-mêmes, elles essaient de protéger leur foyer, parce qu'aucune femme ne souhaiterait avoir un mari qui va sexuellement avec son employé de maison. Et puis aussi, de protéger la travailleuse domestique qui est vulnérable.
Paroles de femmes exposées aux violences et aux abus au travail. Selon l'Organisation internationale du travail, environ 67 millions de personnes dans le monde sont des travailleurs domestiques et la proportion de femmes est trois fois plus élevée que celle des hommes, Raphaël.
Cette féminisation du travail domestique génère, on l'a entendu, des déficits en termes de protection de ces travailleuses. Et c'est pourquoi Claudine fait le relais entre les femmes qu'elle forme et les employeurs qui cherchent une assistante de maison pour que les droits de toutes les parties soient respectées.
Mais alors que dit la loi au Cameroun ? Est-ce qu'il existe des textes qui protègent les droits des travailleuses domestiques ?
Oui, il y a un décret signé en 1968 qui encadre le travail domestique, c'est-à-dire la durée du travail, le salaire minimum, mais qui est aujourd'hui obsolète, selon Claudine, et en plus qui ne prévoit pas de protection particulière pour les femmes. Mais faut-il encore, Emmanuel, que la loi soit appliquée ? Et au niveau mondial, la convention de l'OIT de 2022 sur le travail des domestiques n'a pas été ratifiée par le Cameroun. Alors quels sont les droits des travailleuses domestiques ? Retour en formation avec Claudine.
Le premier droit, c'est d'avoir son contrat de travail. Même si vous ne savez pas lire, avant de signer, faites-vous accompagner par quelqu'un qui sait lire et comprendre. Ne signez pas pour le plaisir de signer. Vous avez votre exemplaire, il a son exemplaire. Le troisième exemplaire va aller à l'inspection de travail. Vous devez l'enregistrer pour qu'il n'y ait pas les abus. Deuxièmement, vous demandez à ce que vous soyez affilié à la CNPS. C'est la Caisse nationale de prévoyance sociale qui assure une pension vieillesse aux travailleurs lorsqu'ils prennent la retraite, qui donne des allocations familiales quand on est travailleur domestique, qui assure les accidents qui peuvent arriver lorsqu'on travaille, comme nous les travailleurs domestiques. Il peut vous arriver de glisser dans une maison. Vous allez vous fendre la nuque. Pour vous soigner, il faut que la CNPS vous prenne en charge. Et si vous n'êtes pas immatriculé par votre employeur, la CNPS ne peut pas vous prendre en charge. Demandez-lui le papier qui atteste que tu es affilié pour que tu puisses vous relever ton numéro. C'est avec ce numéro maintenant que tu peux aller contrôler s'il verse effectivement les cotisations sociales qu'il prélève sur ton salaire. Voilà. Quand vous êtes travailleur domestique, vous avez droit à un congé annuel. Lorsque vous avez déjà fait chez le même patron un an de service continu qui est de 18 jours, on ne va pas dire que quand vous êtes parti en congé, on ne vous paye pas. On doit vous payer. Ensuite, vous aurez droit à ce qu'on appelle les permissions exceptionnelles lors du décès de votre père, de votre mère, de votre conjoint et de votre enfant. Vous avez droit à 3 jours. Donc, il faut toujours des preuves. Une lettre à ton patron, c'est une preuve. Tu gardes la copie avec toi. Et même, vous avez 3 mois de congé de maternité. C'est là l'importance de la CNPS. Durant les 3 mois, qui va vous payer? C'est la CNPS et même les primes d'accouchement d'un enfant vivant. Donc voilà autant de droits que vous devez connaître quand vous travaillez. Je n'ai pas omis de vous parler du droit d'une heure de repos par jour. Et ton heure de pause, tu es libre de la prendre hors du domicile. Et c'est à vous de savoir vous imposer face à l'employeur. Parce que si vous vous laissez un peu piétiner, ils vont vous arracher ces droits-là, ils ne vont pas vous les donner. Mais maintenant, en retour, vous avez le devoir de lui donner un bon travail, de ne pas voler chez lui, ainsi de suite. Merci. S'il y a des questions, je vais répondre.
C'est très bien, c'est important. Parce que moi, quand je travaillais, ça ne se passait pas comme ça.
Oui. Tu étais affiliée à la CNPS?
Non, je n'étais pas ma affiliée à la CNPS. Je ne savais
même pas que la CNPS existait pour les travailleurs domestiques.
Oui, oui.
Et alors Claudine, quand il y a justement des cas de violation des droits des employés de maison, quels que soient les cas, qu'est-ce que vous faites vous avec votre association?
Quand il y a violation des droits, nous faisons une réunion tripartite.
De médiation en fait.
De manière à ce qu'on arrive à un consensus pour recommencer la relation. Mais si on constate qu'il y a un petit esprit de rébellion, on va passer à la négociation. Et si la négociation ne marche pas, on va aller cette fois-là chez l'inspecteur du travail.
Mais est-ce que dans l'histoire récente, on a déjà vu un employeur être condamné pour ne pas avoir respecté les droits d'une employée de maison?
Pas encore, mais c'est parce que la travailleuse domestique n'a pas des moyens pour s'offrir un avocat pour sa défense, pour devoir aller se justifier si c'est vrai ou ce n'est pas vrai.
Claudine, est-ce que vous êtes fière de votre parcours, de cette jeune femme que vous étiez, qui a grandi dans un village à plus de 30 km de Yaoundé, qui aujourd'hui aide des centaines de femmes dans les 10 régions du Cameroun à faire respecter leurs droits, être payées correctement, jusqu'à fonder finalement le premier syndicat des travailleuses domestiques au Cameroun?
J'en suis tellement contente parce que depuis plus de 30 ans, je suis dans ce secteur, je suis dans ce combat et je vois que les résultats commencent à se faire voir. Les gens dans les rues disent que « Ah, ce secteur est déjà très organisé dans notre pays ». Donc ça commence à susciter beaucoup de vocations même déjà, parce qu'ils se disent qu'avec un syndicat, il y aura des meilleurs salaires, il y aura la protection des droits, parce que nous avons fixé la base chez nous, dans notre association, le minimum est de 50 000 francs.
50 000 francs CFA, ça fait à peu près 77 euros. Sachant que depuis mars 2023 au Cameroun, le SMIC a augmenté.
Oui, le SMIC a augmenté de 36 270 francs à 60 000 francs. Et oui, nous souhaiterions que ces choses-là soient écrites dans la Constitution parce que ça rappelle tout de suite les employeurs à l'ordre.
Mais est-ce que ce combat pour un salaire décent, des conditions de travail décentes et aussi peut-être des instruments juridiques qui défendent les droits de ces travailleuses, est-ce que ça c'est possible un jour au Cameroun de le voir inscrit noir sur blanc, ou est-ce que le travail des femmes domestiques et la violation de leurs droits, c'est encore quelque chose qui est banalisé aujourd'hui au Cameroun?
Les travailleurs domestiques sont encore très mal considérés au Cameroun. Mais petit à petit, les perceptions changent. Il y a un travail de fond qui est fait par des organisations de la société civile qui négocient petit à petit avec le gouvernement pour la prise en considération du secteur de travail domestique. Nous nous battons pour toutes les femmes du Cameroun. Donc, j'appelle toujours à la bonne conscience des travailleuses domestiques qui ne doivent plus se laisser influencés par le pouvoir de leur employeur. Il faut que les travailleuses domestiques sachent qu'elles ont des droits et que lorsqu'elles sont à leur poste de travail, elles ne doivent plus se sentir en position de faiblesse parce que nous sommes à égalité. Vous apportez des services à quelqu'un qui vous paye. Donc, vous avez les droits qui sont égaux.
Et ce combat pour défendre les droits des femmes et leur place dans la société, c'est quoi le but finalement pour vous?
Pour moi, c'est de voir les femmes travailleuses domestiques très épanouies, qu'elles ne soient plus marginalisées, des femmes qui peuvent avoir des épargnes, qui peuvent avoir des projets à réaliser avec leur salaire de femmes travailleuses domestiques. Être employé de maison ne signifie pas qu'on a tout raté dans la vie. C'est un métier comme tant d'autres. À travers ce métier, on peut y faire carrière. On commence, par exemple, nounou. Pour finir, on devient une gouvernante de maison avec un grand salaire. Et comme j'aime toujours dire, ça aussi, c'est une victoire.
Raphaël Constant, on l'entend dans votre reportage, c'est encore et toujours à la société civile de se battre pour défendre les droits des femmes.
Oui, et Claudine rêve que le travail domestique soit enfin formalisé par l'État du Cameroun, notamment par la création d'une direction nationale du travail domestique qui protégerait enfin les femmes employées de maison, mais aussi que la formation professionnelle soit reconnue et subventionnée, parce qu'aujourd'hui, Emmanuel, les femmes n'y ont pas accès, faute de moyens.
Et on se retrouve juste après la chanson Naana Ande d'Aminatou, qui est une artiste originaire du nord du Cameroun, dans laquelle elle lance « Battons-nous pour un travail, nous les femmes d'aujourd'hui ». RFI, 8 milliards de voisins, reportage au Cameroun de Raphaël Constant, auprès de militantes qui se battent, qui se mobilisent pour l'indépendance économique des femmes, pour une société plus égalitaire. Et pour comprendre les freins, Raphaël, vous vous êtes rendu dans l'extrême nord du pays, au Cameroun.
C'est l'une des 10 régions du pays la plus peuplée et où les femmes sont particulièrement vulnérables à cause de plusieurs crises qui les affectent. La crise sécuritaire liée au conflit avec Boko Haram, la crise climatique entre sécheresse et inondations qui appauvrissent l'agriculture et donc les revenus des femmes. Il y a aussi, Emmanuel, la crise économique post-Covid-19 et plus récemment l'inflation qui a atteint plus de 6% en 2022. La précarité est donc plus importante dans l'extrême nord du Cameroun et c'est pourquoi il est vraiment primordial que les femmes soient indépendantes financièrement, qu'elles puissent envoyer et surtout maintenir leurs filles à l'école et qu'elles ne soient donc pas obligées de rejoindre les camps de déplacés internes ou au contraire de rester sous la coupe de maris violents.
Et vous avez donc suivi une autre militante qui se bat pour soutenir des femmes qui n'ont jamais la parole dans une région peu couverte par les médias pour raison de sécurité.
À Maroua, j'ai rencontré Rolande Absaya. Elle a 39 ans, elle est mère de 2 enfants et c'est une femme aussi timide que convaincue par l'importance de son combat. Présidente de l'association au secours des filles mères créée en 2016, elle forme les femmes vulnérables des villages de sa région en couture, en broderie, teinture ou en transformation de produits alimentaires pour qu'elles puissent créer enfin leur activité économique et pour pouvoir gérer une épargne. Je l'ai retrouvée au siège de son association où elle m'attendait, toute élégante, dans une belle robe pagne rouge et bleue.
Bonjour, bienvenue à Maroua.
Merci.
Ça va bien?
On est au centre de l'association au secours des filles mères à Maroua, plus précisément à Baoulioul. Donc, on peut prendre place. Merci.
Alors, pour bien comprendre, Rolande, quel est le contexte ici à Maroua, région frontalière au Tchad et au Nigeria, qui est aussi la région la plus pauvre du Cameroun?
Oh, la situation, elle est vraiment difficile parce que déjà, il y a la tradition, le poids de la tradition qui pèse sur les femmes et les filles tout entières et la maltraduction de la religion qui fait en sorte que les femmes sont vraiment piétinées et marginalisées. Aussi, quand elles partent à l'école, le niveau d'études de la plupart, c'est 6e, 3e. Après la classe de 3e, c'est le mariage, c'est le ménage, c'est la femme au foyer. L'année dernière, on était à Durum pour une sensibilisation. Une des participantes avait fait un témoignage sur comment elle était vraiment maltraitée à la maison. Elle fait ses travaux champêtres, elle ramène la récolte à la maison. Et son mari est celui-là qui prend ses récoltes pour aller vendre et puis s'acheter du bilibili. Le bilibili, c'est l'alcool à notre niveau. Ou aller aussi sorti avec les petites filles, avec cet argent, dès qu'elle ouvre la bouche, c'est les bastonnades. La pauvreté a un poids vraiment sur les femmes et sur les filles. On doit être soumise, c'est celle qui doit être à la maison pour subvenir aux besoins et aux attentes du mari et des hommes.
Rolande, pourquoi c'est nécessaire d'intervenir, de faire des sensibilisations dans les zones rurales?
C'est très important parce que dans les zones rurales, les femmes, les filles ignorent leurs droits. Elles vivent encore le patriarcat. Donc, pour que ces femmes puissent se décider de se fixer des objectifs, de se dire que non, je peux faire quelque chose, je suis une personne, j'ai des droits dont je veux jouir de mes droits.
Et alors, comment vous travaillez dans ces zones rurales?
La première personne à convaincre, c'est le chef traditionnel, qu'on appelle ici Djaro ou Lawan. C'est difficile parce que ils ne veulent pas qu'il y ait changement. Ils disent que c'est amener, le mot qu'ils utilisent, c'est amener les choses du blanc, des blancs, des occidentaux. C'est difficile à ce niveau, mais pour réussir, afin que nous nous rabaissons au même niveau de compréhension que nous le disons. C'est pour permettre aux femmes de participer aux dépenses de la famille à ce niveau. Si c'est seulement ça, c'est OK.
Et pourquoi il y a cette image du féminisme qui viendrait de l'Occident?
C'est par rapport à la permission qu'une fille peut ouvrir la bouche pendant que les hommes sont en train de parler. Ou bien une femme ouvre la bouche pour rétorquer, pour dire non, là, c'est pour les blacks. C'est ce qu'ils disent. Pourtant, c'est pour tout le monde. Et ils ont peur que les femmes deviennent autonomes, indépendantes. Voilà.
Un autre élément important de contexte, c'est que la région de l'extrême nord est secouée depuis 2013 par le conflit dû à Boko Haram. En quoi les femmes sont aussi et surtout victimes de cette crise?
Il y a eu des femmes qui ont été enlevées, qui ont tout perdu en fait. Les enfants, on enlevait les filles, on enlevait les garçons qui étaient encore bien jeunes, robustes, pour devenir les femmes de ces terroristes, je peux l'appeler ainsi. Des femmes perdaient leur récolte parce qu'ils dépouillaient des familles de leurs denrées alimentaires, de leurs habits, de leurs biens en fait, de tout ce qu'ils possédaient. Et il y a eu des déplacements. Et même à notre niveau ici, il y a trois des filles qui sont des survivantes de cette crise de Boko Haram.
Je m'appelle Madeleine. Je sors du village sur la montagne. Je me suis battue pour l'école aussi. Il n'y avait pas, comme je suis le Benjamin, il n'y avait personne pour m'aider. J'ai fait 6e. Au village, comme je n'étais pas à l'école, je me suis mariée à 17 ans.
Mais c'était un mariage arrangé par votre famille?
Oui. Et le gars m'avait abandonnée. Il est parti à Yaoundé, s'est remarié encore avec une autre femme. Puis, le Boko Haram nous dérange. On ne dort pas à la maison. C'est pour cela qu'il a quitté le village pour Mawa. Je me suis battue pour commencer un petit commerce. Je vends les œufs et le pain, le sésame, l'arachide.
Alors, vous parlez des dérangements de Boko Haram, ça veut dire quoi?
Voilà, par exemple, la semaine dernière, on a tué mon oncle. On avait perdu d'abord un oncle qui était malade. Donc, dès qu'on fait ses funérailles, on sait qu'il y a un peu d'argent. Donc, il vient ramasser tout ce que vous avez cotisé, comme le mil, même la marmite, il ramasse.
Vous êtes retourné au village pour enterrer un membre du village. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu un assaut des membres de Boko Haram parce qu'ils ont su qu'il y avait une cérémonie, et qui dit cérémonie dit donc des gens qui rentrent au village avec un peu d'argent, avec de la nourriture.
C'est en ce moment-là que le Boko Haram sont venus nous attaquer. On l'a tiré d'abord au pied. Il criait au secours, au secours. Moi, je partais vers lui pour l'aider. C'est là où il me dit que non, ne viens pas, il faut fuir. J'ai pris pour l'axe de montagne, non, sur le caillou, je courais. C'est là où le caillou m'a pris, pap, je suis tombée par terre. Ils ont tué même 7 hommes comme ça chez nous. Il vient la nuit, vers 20h. Tout le monde dort déjà. Comme toi, tu n'as rien en main, on peut te tuer facilement. Quand tu cries, on te tue. Quand tu ne cries pas, on ramasse tout. On te laisse, on te dit de fermer la bouche. Ne crie pas. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Je suis fui le village, à cause de aussi la sécurité.
Et c'est comme ça que vous êtes rapprochée de l'association de Roland?
Oui, oui. Il y a un an, elle m'a orientée, elle m'a aidée. C'est grâce à elle que je suis ici aujourd'hui. J'ai suivi une formation en couture et elle nous a dit qu'elle pouvait nous aider à nous renforcer dans nos petits commerces et la couture. Je vais aussi recevoir un fonds pour commencer mon entreprise. Je suis contente de ce qu'elle nous a appris.
Et aujourd'hui, Madeleine, est-ce que vous savez combien, à peu près, avec ce petit commerce de pain et d'œufs, vous arrivez à gagner par mois? Vous faites combien de profits, à peu près?
En mois, je peux avoir 30 000 francs par mois.
Ça fait à peu près 46 euros. Est-ce que ça suffit pour subvenir aux besoins tous les jours?
Non, on se bat avec. On loue la maison avec, on mange avec, donc on fait avec.
Et donc cette formation à la couture, ça vous permettrait, Madeleine, d'avoir une autre activité économique pour joindre les deux bouts?
Oui, si possible. Ça me permet aussi de vivre un peu heureux dans ma famille. Et aider aussi ma maman et mon enfant pour l'école, pour l'avenir meilleur.
Rolande et les membres de son association interviennent aussi directement dans les quartiers et les villages. J'ai suivi donc une causerie à Ouandé, dans le deuxième arrondissement de Marois. C'est en périphérie de la ville, au pied des collines, dans un paysage aride. Ce jour-là, une trentaine de femmes sont réunies par une température de 45 degrés.
On y a l'idjam.
Nous sommes venus aujourd'hui pour une causerie éducative sur l'autonomisation et les droits économiques de la femme. Est-ce qu'ici à Ouandé, vous faites du commerce sans contrainte? Est-ce que le mari donne la permission à sa femme et à sa fille de travailler librement?
Oui, à condition que ce soit à domicile. Mon mari ne veut pas que j'aille vendre en dehors du quartier. Je peux seulement rester au bord de la route avec ma marchandise. J'aimerais bien avoir une table au marché, me familiariser avec les commerçants, faire des cotisations, mais il n'est pas d'accord. J'ai essayé de le convaincre par tous les moyens et il a répondu seulement après ma mort. J'ai eu le droit de venir à cette réunion, mais pas d'aller au marché. Vous savez, les difficultés auxquelles nous faisons face sont nombreuses. Ici, certains conjoints ne veulent pas que leurs épouses aient une activité économique pour gagner quelques sous. Il y a des femmes qui souffrent et qui ne s'en sortent pas malgré tous leurs efforts, car les charges familiales sont supérieures à leurs revenus. Souvent, elles ne peuvent pas acheter à manger à leurs enfants. Moi, je suis veuve. Je viens de me remarier et d'arriver dans ce quartier. Je dois subvenir aux besoins de mes enfants, les nourrir, les envoyer à l'école, les habiller. Même avec mon petit commerce, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, ma fille de 12 ans a arrêté l'école car je ne pouvais plus payer les frais scolaires et l'uniforme. Avant, je me battais, je faisais des frites d'igname, des beignets de poisson et mon fils allait les vendre. Aujourd'hui, les enfants ont grandi, mes deux autres filles sont mariées et ne s'occupent plus de moi. Ma dernière fille est bien trop jeune pour aller vendre les marchandises au carrefour. Le Benjamin de 11 ans part vendre dans les quartiers, mais avec ce qu'il rapporte, j'ai juste de quoi acheter du riz et il ne me reste plus rien.
Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Est-ce que par exemple les attaques de Boko Haram vous ont touché? Et la pandémie de Covid-19, est-ce que ça a affecté vos activités génératrices de revenus?
Avant, avec une somme de 1000 francs CFA, on pouvait débuter un petit commerce. J'achetais 1 kg de sucre à 800 francs, je le vendais au détail dans des petits pots et je pouvais en tirer un profit de 200 francs, parfois plus. Mais aujourd'hui, le même kilo est vendu à 1000 francs et avec les différentes crises comme celle de Boko Haram que tu cites, c'est pratiquement impossible de faire quoi que ce soit. Les denrées alimentaires sont devenues plus chères sur le marché et on ne mange plus matin, midi et soir. Nos enfants ne vont plus à l'école, tout est devenu cher, il n'y a plus de travail. On est toutes touchées.
Je vais devoir passer la parole à Samira.
Ok, Sanou. Entamé Wolugo de l'autonomisation de la femme.
Bonjour à toutes. Je vais vous parler de l'autonomisation de la femme. Et pour cela, c'est important de vous dire que ce sont ces droits économiques qui peuvent vous rendre indépendante. En Afrique, ce droit passe par exemple par l'héritage foncier. Est-ce qu'ici, vous héritez des terres de votre père ou de votre mari? Vous avez aussi le droit d'acheter un terrain et de demander un titre foncier. Il faut avoir conscience de ça pour être autonome. Maintenant, pour plus d'indépendance financière, c'est à vous de comprendre comment causer avec votre mari pour qu'il accepte de vous laisser faire votre commerce. Expliquez-lui qu'avec une activité économique, vous participerez aux charges familiales. Ensuite, d'un point de vue légal, vous avez le droit de faire une carte d'identité ou de demander un acte de naissance. Vous Vous avez le droit de voter ou de déposer une candidature pour devenir maire. Vous avez aussi le droit de créer une association ou un groupe d'initiatives communes pour travailler ensemble. Alors, avec tous ces éléments que je viens de vous donner, qui peut dire qu'elle est autonome ?
C'est difficile, hein. On n'a pas d'économie pour constituer un capital de départ. Dès qu'on met un peu d'argent de côté, cette épargne est utilisée pour nos besoins au quotidien. Comment on peut avancer dans ces conditions ?
C'est pour ça qu'on vous dit que pour être autonome, une femme doit se battre pour chercher de l'argent. Il faut être créative, chercher une idée dans sa tête et ne pas attendre qu'on vous donne la solution. Regardez dans votre quartier, dans votre ville, qu'est-ce qui manque. Essayez de trouver une idée pour créer votre propre commerce. Et même si quelqu'un le fait, peut-être que vous pouvez ajouter votre touche personnelle et vous faire connaître. Les clients reviendront. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous allez gagner votre vie, être à l'aise et donc devenir autonome. C'est de la débrouillardise, c'est vrai. Moi aussi, j'ai des difficultés comme vous. Ma mère aussi en a. Mais il faut aller de l'avant, même si ça demande de se serrer la ceinture au début.
Nous avons fait le tour, je pense. On a bien recensé tous vos témoignages. Merci d'être venu, merci d'avoir pris le temps de nous écouter malgré le soleil et la chaleur. Pensez bien à tout ce qu'on vient de se dire et faites-le. Nous aussi, ça nous donne de la force de voir que les femmes d'ici persévèrent. Merci encore à vous toutes.
Et cet engagement auprès des femmes de votre communauté, Roland, d'où il vient ?
Je viens d'une famille à deux enfants. Je suis la première. J'ai une petite sœur, donc nous sommes deux. Ma mère est une femme ménagère. Mon père, il travaillait aux travaux publics. Mon père a été à l'école. Il voulait que je fréquente, vraiment. Il voulait que je fréquente, mais aussi que je sois celle-là, la fille droite, soumise.
Et ça, c'est un paradoxe pour vous ?
C'est vraiment un paradoxe parce que mon père, il est pasteur, en fait. Donc, je dois respecter ce que lui, il comprend de ce qui est écrit dans la Bible. Je ne dois pas marcher avec les garçons, en fait. C'est ça son problème. Mais il y a aussi la jeunesse. J'avais un petit ami, chose qu'il n'a pas du tout aimé. Arrivé en seconde, il a dit, Roland, tu choisis, soit c'est l'école, soit c'est le mariage. J'ai dit non, papa, une fois arrivé en seconde, je ne peux pas arrêter. À ce moment, il a décidé d'arrêter de payer mes études. Et moi, je me suis dit non, papa, même si tu ne payes pas les études, je vais me débrouiller. Pendant les vacances, je vendais le caramel de sésame. Donc, avec ça, j'ai pu payer mes études. À partir de là, j'ai dit non. Les femmes ont des capacités en elles. Il suffit juste de dire non ou de dire je peux. Et pendant mes vacances, j'ai aussi suivi une formation en informatique. Donc, j'étais vraiment décidée. Heureusement pour moi, je n'ai pas échoué. Je suis allée jusqu'à terminale. J'ai réussi. J'ai payé les frais de formation comme institutrice. Et de l'enseignement technique.
En comptabilité et gestion, c'est
oui.
Ça ?
Oui. À l'école, on organisait des petites réunions entre filles et on parlait de nous, de ce qu'on va devenir. Et puis, il y avait ALVF, Association de lutte contre les violences faites aux femmes, nous invitait aux réunions de sensibilisation sur les droits des femmes. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit... Moi aussi, je vais créer ma part d'association et je vais accompagner les femmes de ma localité.
Et finalement, est-ce que vous êtes mariée ? Est-ce que vous avez eu des enfants ?
Je me suis mariée à 19 ans. J'ai eu deux enfants avec...
Avec le copain de l'école ?
Oui, avec le copain de l'école. Avec le copain de l'école. Bon, aujourd'hui, il est bien vrai que chacun est de son côté, mais ça va, il n'y a pas de souci, on se gère comme ça. Il est le genre qui ne veut pas que j'aille travailler, en fait. Monsieur est autoritaire, monsieur dit que non, pas de travail, il faut t'occuper des enfants. Pourquoi j'ai étudié ? c'est pour venir rester à la maison.
Donc finalement, vous vous êtes séparés par conviction, Rolande ?
Oui, oui, je peux le dire, oui, et à haute voix. Et aujourd'hui, me voilà qui porte haut les droits des femmes et des filles. Et je suis accompagnée.
Et aujourd'hui, votre père, ça veut dire qu'il est fier de vous?
Il est vraiment fier de moi. De là où je suis, et c'est lui qui m'encourage, il a dit, tu as bien fait de tenir tête. Aujourd'hui, les hommes qui sont tout autour, ce sont eux qui conseillent à leur fille de prendre exemple sur moi. De prendre exemple sur moi. Partout où je passe, on dit, madame, je veux aussi faire comme vous. J'ai dit, ok, mais il faut être tenace.
Vous êtes émue, Rolande, et moi aussi. C'est quoi l'émotion, là, pour vous?
Quand je revois tout ce que j'ai fait, parce que ça a été vraiment un combat. Et je suis aussi, en même temps, contente de ce que je suis en train de faire. Pour moi, pour les filles, pour les femmes de ma localité. Les parents sont là.
Vous allez bien?
Ça va très bien.
Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour, madame Raphaël. Rentrez, hein.
Donc, on rentre dans une concession. Il y a plusieurs maisons, des poules sur les côtés, ouais. Des bananiers.
Et il y a les poulets qu'on appelle pantalonniers, là, ils sont là. Je suis en train d'élever. Oui, je suis joyeux.
Merci pour l'accueil.
Ok, oui. Depuis la France, ici chez moi, dans l'extrême nord, au Cameroun, c'est bon.
Et monsieur, qu'est-ce que vous pensez du travail de Rolande, de votre fille, qui se consacre vraiment au combat pour les droits des femmes?
Moi, je pense que c'est un bon travail. Normalement, toute personne est libre. Et nous habitons l'extrême nord, c'est-à-dire la grande population qui méprise les femmes. On dit que les femmes doivent rester dans la maison, dans la cuisine. À l'âge soit de 14 ans, on le pousse en mariage. Et c'est pas bien parce que les femmes là sont toujours maltraitées. Les enfants là sont maltraités. Tu ne peux pas trouver une fille très contente dans sa vie pendant qu'elle est encore jeune chez ses parents. Rolande a vu que ça ne marche pas. Il faut qu'il apporte une aide et qu'il, n'est-ce pas, enseigne les parents et les filles soient libres dans leur foyer et qu'ils se marient à l'âge normalement prévu.
Alors du coup, le combat que Rolande mène pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour que les femmes elles puissent avoir accès à une activité économique, qu'est-ce que vous en pensez?
Et le combat est dur. Je suis fier de ma fille. C'est parce que ma fille comprend la vie. Oui. Mais dehors, il y a certains hommes qui disent qu'il est en train d'apprendre la rébellion aux femmes.
Que Rolande, elle est en train d'apprendre la rébellion aux femmes.
Oui, c'est dehors. C'est le soutien.
Mais ça, c'est assez rare, un père qui soutient une jeune femme qui se dit haut et fort féministe ici à Marois.
Mais c'est rare. Ici, un homme peut avoir 8 femmes et la femme ne peut pas avoir 2 hommes. Et c'est mauvais.
Vous lui dites? Parce que là, je la vois, elle est en train de se cacher. Rolande, vous pouvez venir avec nous?
Je suis là.
Vous avez entendu ce que dit votre papa?
Oui, oui. Il dit qu'il est fier, très fier de ce que je suis en train de faire. Et d'ailleurs, même c'est lui qui me soutient. Et l'atelier de formation, c'est lui qui nous a donné une parcelle pour construire là et nous travaillons là.
Une parcelle de sa concession?
Oui, oui.
Juste derrière?
Ouais. C'est lui qui me dit, ma fille, ici, il faut faire ainsi, de cette manière-là, vas-y tout doucement avec les femmes. Donc, il est fier, voilà.
Oui. Moi, je t'ai dit qu'il faut que Rolande avance avec son activité là. Et il faut que les femmes comprennent, les hommes comprennent aussi. Qu'il y a vraiment l'égalité. D'abord à l'extrême nord et au Cameroun. Je peux dire encore plus en Afrique. Oui. C'est ça.
Merci, monsieur.
Je vous remercie.
Parole d'un père fier de sa fille. À Yaoundé, à Maroua, Claudine, Rolande participent au projet Féministes en Action qui est soutenu par 3 ONG internationales et 3 fonds féministes. Rappelons que l'égalité entre les femmes et les hommes d'ici 2030 figure parmi les objectifs du développement durable des Nations Unies. Cameroun, le combat pour l'autonomie financière des femmes. C'était un reportage de Raphaël Constant avec le soutien de CARE, une ONG de solidarité internationale qui lutte contre les inégalités. À la réalisation, Romain Dubrac. On se quitte avec l'artiste camerounais Loco et dans quelques instants, le journal sur RFI.
Quand j'étais dans mes palas, pourquoi t'étais pas là? Quand j'étais dans les palas, pourquoi t'étais pas là? Ils disent du mal de moi quand ils sont avec toi, mais feront parler de toi seulement quand tu n'es pas là. Seulement quand tu n'es pas là. Seulement quand tu n'es pas là. Elle m'a menti, n'est pas si gentille, mon lama quoi dedans. Je n'accorde pour la tatane, y'a pas l'amour dedans. Ça veut me parler du passé, pas la peine de ressasser. Trop occupé, pas le temps d'y penser. Faut que j'aille de l'avant. Oh, ah. Quand j'étais dans mes palas, pourquoi t'étais pas là? Quand j'étais dans les palas, pourquoi t'étais pas là? Ils disent du mal de moi quand ils sont avec toi. Les feront pareil de toi, c'est moi quand tu n'es pas là. Quand tu n'es pas là. Seulement quand tu n'es pas là. Y'a pas l'amour dedans, nanana. Y'a pas l'amour dedans. Y'a pas l'amour dedans, nanana. Y'a pas l'amour dedans. Y'a pas l'amour dedans, nanana. Y'a pas l'amour dedans. Il m'arrache le choco, puis demande la photo. Y'a pas l'amour dedans. Elle veut 100 000 pour le taxi. Y'a pas l'amour dedans. Me parler du passé, pas la peine de ressasser. Elle refuse d'oublier. Laisse-moi te rappeler que. Seulement quand tu n'es pas là. Seulement quand tu n'es pas là.
Moi je n'ai plus le temps. Je dis je ne gêne plus les gens. D'abord je suis dans le bruit. Après le bip là seulement. Moi, il n'est plus le temps. Je dis, je ne gêne plus les gens. D'abord, je suis dans les bruits. Après, le bip laisse seulement.
C'est mon quand tu n'es pas là. C'est mon quand tu n'es pas là.
8 milliards de voisins, c'est fini.